Étape incontournable de tout séjour touristique dans la capitale tchèque, Josefov, le quartier juif de Prague, est un lieu chargé d'histoire et de mystère. Situé depuis le Moyen Âge sur la rive droite de la rivière Voltava, le ghetto juif a considérablement changé au fil des siècles. Les monuments qui ont été conservés jusqu'à nos jours, notamment la synagogue vieille et nouvelle et le vieux cimetière juif, continuent à fasciner, de même, bien entendu, que la légende du golem, une légende liée à la cité juive de Prague, un lieu à découvrir ou à redécouvrir avec Magdalena Rosinkova.
Josefov, qui fait figure du plus petit quartier de Prague, est facilement accessible par la station de métro Staroměstská ou par la rue Pařížská. Bordé par un méandre de la Vltava, il se trouve en plein cœur du vieux Prague. Pour les visiteurs, il est parfois difficile de se faire une idée précise de ce qu'était la cité juive de Prague, dont il n'existe aujourd'hui que des vestiges. On écoute la guide Šárka Gandalovičová.
Beaucoup de touristes ont l'impression que ça fait partie de la vieille ville parce qu'il n'y a pas tellement de frontières ou obstacles qui vous annoncent, avertissent qu'il y a un autre quartier. Mais c'est le quartier qui est très important et un des plus anciens de Prague parce que dans ce méandre de la Vltava vivait depuis 12e et 13e siècle la communauté juive très importante. À cette époque, ils ont vécu encore relativement bien. Les juifs. Mais pour les juifs, la situation change dans toute l'Europe en 1215. En 1215, pendant le 4e concile de Latran, le pape Innocent III a déclaré les juifs coupables de la mort de Jésus-Christ et des esclaves de Saint-Empire en Germanie. Ça change complètement leur, on peut dire, situation sociale dans l'Europe. Au 13e siècle, quand Fourton fonde la vieille ville qui voisine avec le quartier de Josefov, les avenues principales de ce quartier de Josefov qui se sont orientées vers la vieille ville ont été fermées par les portes. Donc les juifs commençaient à vivre là séparément de la population chrétienne de la vieille ville. Et à partir de cette époque, c'était relativement normal qu'ils ont souffert de pogroms, les attaques de la part de la population chrétienne. Les raisons étaient différentes. Ça, on connaît dans toute l'Europe quand il y avait une épidémie de peste, les premiers qui ont été accusés, qui l'ont causé, c'était les juifs. On a dit qu'ils ont empoisonné l'eau potable, etc. Ils n'ont pas eu les mêmes droits civils et politiques comme les autres habitants. Et cette situation terrible durait, on peut dire, jusqu'à l'époque de Joseph II.
Il a donc fallu attendre 1781 et la promulgation de l'édit de tolérance par Joseph II pour que la population juive ne connaisse plus les persécutions des siècles passés. Cet édit de tolérance garantissait non seulement la liberté de culte, mais aussi le libre accès de tous les citoyens, quelle que soit leur confession, à la vie publique. En 1850, lorsqu'elle a été rattachée au reste de Prague, la ville juive, Židovské město, est devenue Josefov ou Josefov en mémoire de l'empereur. Au tournant des 19e et 20e siècles, presque tous les bâtiments du quartier ont été démolis et remplacés par de nouvelles maisons d'habitation. Le guide Jakub Schwab, initiateur du projet Imperial Kosher Tour, nous fait découvrir les vestiges de l'ancien quartier juif.
Nous nous trouvons rue Pařížská, en français la rue de Paris. C'est une longue artère, la plus luxueuse et la plus représentative de la vieille ville de Prague. Et nous voilà en face de la synagogue vieille nouvelle, considérée comme la plus ancienne synagogue d'Europe centrale. La date exacte de sa construction demeure inconnue. On la situe entre 1270 et 1290. Les historiens misent plutôt sur l'année 1270, donc nous fêtons cette année son 750e anniversaire.
À cause des inondations, le terrain a été élevé lors des travaux d'assainissement. Par conséquent, l'entrée dans la synagogue Vieille Nouvelle se trouve 2 mètres au-dessous du niveau de la rue Parijska. D'où vient le nom singulier de la synagogue Vieille Nouvelle, Jakub Schwab?
À l'origine, d'après ce que je sais, elle s'appelait Nouvelle, car la première synagogue de Josefov, la vieille école, datait du XIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle, on a construit une synagogue qui s'appelait Nouvelle, en allemand Neuschule. Alors pour faire la distinction entre elles, la synagogue du XIIIe siècle a été rebaptisée Vieille Nouvelle.
Protože byla postavena v době mezi tou starou a tou novou.
Aujourd'hui, vous ne trouverez à Josefov ni la vieille ni la nouvelle synagogue, mais seulement celle qu'on appelle vieille nouvelle. À l'emplacement de la vieille école se trouve depuis les années 1860 la synagogue espagnole, tandis que la nouvelle synagogue a été démolie dans le cadre de l'assainissement du quartier. Joyau de l'art gothique primitif, la synagogue vieille nouvelle est toujours utilisée pour le culte, de même que la synagogue jubilaire construite, elle, dans le style pseudo-moresque est située rue Jerusalemska, non loin de la gare centrale. Plusieurs autres synagogues sont à découvrir dans le quartier de Josefov, de même que l'ancienne mairie de la ville juive.
En haut, vous voyez et vous entendez, même sur le bâtiment de la mairie, se trouve une horloge ordinaire ainsi qu'une horloge avec des chiffres en hébreu et dont les aiguilles tournent de gauche à droite.
I ty hodiny běží zprava doleva a nikoli zleva doprava, jak jsme zvyklí.
L'hôtel de ville a été construit au XVIe siècle par le maire Mordecai Meisel, dont la fortune a permis de développer le quartier. Une des synagogues de Josefov, celle qui servait à l'origine comme lieu de prière à sa famille, porte aujourd'hui son nom. À la synagogue Meisel, on peut en apprendre davantage sur l'histoire des Juifs en pays tchèque jusqu'à l'époque de Marie-Thérèse d'Autriche, tandis que la synagogue Pinkas a été transformée en mémorial de la Shoah. Vous y trouverez 80 000 noms manuscrits de juifs tchèques victimes des nazis. Vous pouvez poursuivre votre balade à Josefov en visitant la synagogue Klaus, l'unique synagogue baroque de Prague, ainsi qu'une salle de cérémonie néo-romane. Dans les deux bâtiments administrés par le musée juif sont exposés les objets et textes liturgiques utilisés pendant les fêtes juives. Avec ses collections qui comptent 40 000 objets et 100 000 livres, le musée juif de Prague, fondée en 1906, fait partie des principaux musées du genre au monde. Paradoxalement, les collections ont été enrichies pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme l'explique Jakub Schwab.
Les nazis ont amené à Prague l'équipement des synagogues et salles de prière de toute la Bohême. Ils voulaient que tout soit répertorié et catalogué. Pour faciliter cela, les autorités nazies ont étatisé le musée juif. Comme la plupart des communautés juives du pays n'ont pas été renouvelées après l'Holocauste, on ne pouvait pas leur restituer ces collections. Il n'y avait personne qui pouvait les reprendre, alors tout est resté au musée juif, qui a ainsi gagné en importance après la guerre.
Protože to, co se přivezlo, už de facto z velké části nebylo kam vrátit.
Co je vlastně s Golem? Vaše císařská milosti, zdá se, že pan maršál Rusworm neuspěl.
Neuspěl?
Chci říci, Golem není.
Není.
Jinými slovy řečeno, Golem nebyl nalezen.
Nebyl nalezen?
Ano.
No ale my chceme Golema.
Vaše císařská
milosti. My potřebujeme Golema! My musíme mít Golema! Všechno ven!
La légende dit que dans le grenier de la synagogue Vieille Nouvelle repose aujourd'hui encore le golem, cet être d'argile fantastique animé grâce à l'inscription du nom de Dieu sur son front et censé protéger les juifs pragois des persécutions. L'histoire de ce héros mystique est ancienne et remonte à 3000 ans, mais cette légende pragoise, la plus célèbre qui le concerne, se déroule à Prague sous l'empereur Rodolphe II, Jarka Gandalovitchova. Raconte.
Au XVIe siècle, vivait à Prague un grand rabbin que les Juifs appellent Maharal de Prague. Et Rabbi Lev, son nom propre, c'était Yehuda Liva ben Bezalel. Celui-ci est venu chez nous de la Pologne. Je pense qu'il a vécu aussi certain temps à Mikulov, où il y avait un Moravie du Sud, une autre communauté. Et quand il arrive à Prague, il a commencé à enseigner le Talmud, donc dans la synagogue Klausen. Et Rabbi Lev, qui, comme beaucoup de rabbins, s'est occupé de la Kabbalah. Il y a plein de légendes qui sont liées à son nom. Par exemple, la plus connue, c'est la légende sur Golem. Golem, c'était un être artificiel qu'ils ont humanoïde, que Rabbi Lev, mais ce n'est pas du tout nouveau parce que le Talmud mentionne toujours cet être artificiel. Donc Rabbi Lev n'était pas le premier qui commençait à jouer avec. Et il a créé, on dit, de quatre éléments. Donc la matière principale, c'était l'argile. Il a été animé, cet humanoïde, avec la formule secrète. Il y a plusieurs versions dans le film renommé tchèque, Boulanger de l'Empereur et l'Empereur des Boulangers. Il est appelé Shem Hashforam. Elle s'est présentée comme la petite boule avec le nom secret des dieux, Hashem, en hébreu ce nom, qu'on a placé toujours dans le trou dans le front de Golem. Mais la légende ancienne littéraire sur Rabbi Lev, elle mentionne un parchemin avec la formule secrète qu'il a placée dans la bouche sous la langue de Golem, et de cette manière il a été animé. Sur son front était écrit le nom secret des dieux et le terme Emet. En hébreu, ça veut dire la vérité. Et avec ce nom Emet et la formule en parchemin dans la bouche, il a été animé et il a travaillé pour Rabbi Lev. Néanmoins, il était absolument nécessaire de l'endormir au début de Shabbat, parce que vendredi soir, il a commencé à être un peu agressif, trop vivant et dangereux. C'est-à-dire, Rabbi Lev enlevait la formule en parchemin dans la bouche et effaçait le premier mot. La première lettre du mot Emet, donc ce n'était que Met, et Met en hébreu c'est la mort. Donc de cette manière il a été endormi, Golem. La légende elle raconte qu'un jour, quand il a eu beaucoup de soucis avec sa fille qui était malade, il a oublié de l'endormir et il a commencé l'office dans la synagogue Vieille Nouvelle quand Golem, plein d'agression, commençait à attaquer les gens, détruire sa maison. Et Rabbi Lev a interrompu son office, il est revenu à la maison, il a endormi Golem, et parce que c'était pendant Shabbat, Golem s'est endormi définitivement, et plus tard Rabbi Lev a caché son corps dans les greniers de la synagogue Vieille Nouvelle. Et la légende raconte que son corps est là jusqu'à présent.
Si le lieu de repos du golem est toutefois voilé de mystère, nous savons avec certitude que son créateur, Rabbi Lev, est enterré au vieux cimetière juif fondé au XVe siècle et comptant près de 12 000 pierres tombales, Sharka Gandalovitcheva.
Le cimetière juif est extraordinaire, c'est-à-dire pour les historiens de l'art, ça peut être pour les historiens, très important, pour les historiens de l'art aussi, parce qu'il y a les monuments funéraires, les stèles, les tombes, qui datent du 15e jusqu'à la deuxième moitié du 18e siècle. Donc pour la sculpture funéraire, c'est assez important. Nous pouvons voir comment changer les matières qui ont été utilisées pour les stèles, pour les monuments funéraires à l'époque du 15e siècle, ce qui est encore le gothique tardif, c'était le grès, donc la matière de sable, la pierre dont on a construit par exemple le pont Charles. Les stèles étaient relativement grandes à cette époque du gothique tardif. Elles ont été rectangulaires et parce que le grès est de sable, allez, assez fragile, c'est facile de creuser le texte qui doit faire partie composante des stèles, qui rappelle le nom du défunt, la date du décès, la date de l'enterrement, et plus plus tard même ce qu'il a fait pour la communauté, l'affliction des survivants, etc. Les stèles au XVIe siècle, à l'époque de la Renaissance, changeaient beaucoup. Elles sont beaucoup plus petites. On a commencé à utiliser les marbres. La République tchèque, les pays tchèques historiques ont eu plein de carrières des marbres de couleur. Les marbres, parce que c'est autre type de la pierre, le texte dans ces stèles est sculpté. Donc c'est en relief. Et la forme triangulaire dans la partie haute. Donc on peut les reconnaître facilement quand on entre. Et le baroque, 17e, 18e, change tout. C'est l'époque pleine de courbes, dynamisme, etc. Dans ce cimetière qui était utilisé depuis 1439, quand il y avait le premier enterrement du rabbin Avigdor Kara, qui a survécu un grand pogrom à Prague de 1389, il y avait les enterrements jusqu'à 1787. C'est-à-dire, c'était énormément de personnages illustres. Il y a plein de rabbins, des érudits, des chercheurs, des bourgeois riches.
Depuis 1787, plus aucun corps n'est inhumé au vieux cimetière. La communauté juive enterre alors pendant 200 ans ses membres dans le quartier de Jichkov, près de l'actuelle tour de télévision. En 1890 a été ouvert dans ce même quartier le nouveau cimetière juif de Prague, où se trouve notamment la tombe de Franz Kafka. Věřím však, že co šlo kdysi, to i dneska.